Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez. Vous êtes au bon endroit pour découvrir celles et ceux qui ont des idées pour faire face à la crise. Et vous allez voir que des acteurs de la société prennent des initiatives. La France bouge, c'est simple, on trouve des solutions. Elles sont françaises. Ensemble avec Emmanuel Duteil, le chef du service économie d'Europe 1, on va en parler. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Elisabeth Assayag, bonjour à tous. La France toujours attractive pour les entreprises étrangères malgré la crise. Le président de la République tente de convaincre une petite centaine de chefs d'entreprise du monde entier. Toute France est tenue ce matin en version dématérialisée, une manière de présenter le plan de relance français et les opportunités de l'après-crise. Notre invité jusqu'à 14h, Franck Riester, le ministre délégué justement en charge de l'attractivité.
À la une, la France attire des entreprises étrangères comme Symphony, une entreprise américaine née à Palo Alto. Elle est installée à Sophia Antipolis et depuis l'émergence du travail à distance, cette entreprise enregistre une croissance record. On verra comment avec son fondateur en direct de Hong Kong.
Une vraie entreprise, une vraie émission mondiale aujourd'hui. Une autre entreprise installée en France depuis 50 ans, celle-ci est italienne, Ferrero. C'est la saga du jour dans La France bouge.
Chaque jour, les trophées Europe 1, La France bouge. Un projet est défendu par celle ou celui qui en a eu l'idée. Aujourd'hui, l'équipe de La France bouge et notre partenaire CCI France ont retenu l'application PharmaQuiz qui permet de tester nos connaissances en matière de santé. On écoutera le pitch de sa fondatrice à 13h45.
Et demain au travail, on passera un coup de fil à Love Radius. Là-bas, on travaille 4 jours, mais c'est 4 jours payés. 5 jours, ça vous fait rêver ? Bah restez avec nous jusqu'à 13h50.
Bienvenue dans La France bouge et nous sommes ensemble jusqu'à 14h.
La France bouge sur Europe 1.
Et oui, chaque jour en direct sur Europe 1, 13h, 14h, La France bouge et même en pleine épidémie, le sommet Choose France qui a lieu en ce moment en visio met l'accent sur l'attractivité. Le président de la République a donné une conférence ce matin, une petite centaine de dirigeants de multinationales du monde entier y a assisté.
Bonjour Franck Riester.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci. D'Europe 1, vous êtes le ministre délégué chargé du commerce extérieur et de l'attractivité. Vous arrivez là directement de l'Élysée. On est loin du grand raout annuel de Versailles, mais la France a voulu marquer le coup. Un symposium en visio vient de se tenir. 87 patrons étrangers, dont ceux de Nestlé, Ericsson, Snapchat ou encore Solvay. Ces dernières années, la France caracolait en tête des classements pour l'attractivité des entreprises étrangères. Franck Riester, est-ce que notre pays s'est séduit toujours les entreprises étrangères malgré la crise.
Oui, tout à fait. Et c'est vrai qu'en 2019, et c'était inédit, la France était en Europe le pays le plus attractif pour les investissements étrangers sur son sol. Ça n'avait jamais existé dans ces dernières années. C'est grâce au travail de transformation du pays qui est opéré depuis 2017 pour le rendre plus favorable au développement des entreprises que ce résultat était possible. Et en 2020, malgré la crise, la France reste parmi les pays les plus attractifs, même si globalement le volume d'investissement dans le monde d'ailleurs, étranger dans les différents pays, est en baisse, en gros autour de 40%. Et c'est vrai aussi pour la France qui est dans cette moyenne, mais devant un grand nombre de pays concurrents en Europe, comme l'Allemagne ou la Grande-Bretagne.
Le but justement de ce symposium ce matin, c'était de présenter notre plan de relance et notamment de montrer tous les secteurs dans lesquels on veut investir pour demain. On peut citer la santé de pointe, l'hydrogène ou encore les batteries électriques. Est-ce que vous sentez que les entreprises étrangères sont sensibles et ont envie de venir participer ou de profiter de cet argent qui va être mis sur la table pour se développer sur ces secteurs ?
Oui, en tout cas, ils sont très attentifs à ce qui est fait en France. Ils saluent deux choses dans cette année de crise 2020. Un, les mesures d'urgence qui ont été prises pour préserver l'outil économique, les entreprises, les salariés de ces entreprises, pour permettre que ces entreprises puissent redémarrer le plus vite possible après la crise. Et puis deuxièmement, que ce plan de relance, même si évidemment il a un effet levier sur la reprise, soit un plan de relance sur le moyen et long terme, avec un focus sur à la fois la compétitivité de nos entreprises, avec la baisse des impôts de production, vous savez, ces impôts très français qui imposent les structures industrielles avant même qu'elles aient produit de la valeur. Et puis aussi sur des technologies d'avenir pour que l'économie française soit plus décarbonée et plus digitale après la crise, et donc qu'elle soit plus résiliente et plus apte à accompagner les investissements de ces différentes entreprises étrangères.
En quoi, malgré la crise, investir en France, ça reste toujours aussi important ? Est-ce que cette crise met, pourquoi pas, un frein au projet qui avait été enclenché ?
Alors je vous dis, oui, il y a un peu un ralentissement, c'est clair, mais encore une fois, moins que dans d'autres pays et dans une tendance mondiale.
Et ça reste important
Pour autant, ça reste important et ça reste important pour plusieurs raisons. D'abord parce que investir en France, c'est investir sur le marché, dans le marché unique européen. Et on sait bien qu'au moment du Brexit, ben, si vous voulez facilement, sans contrainte, toucher des clients dans tout le marché unique européen, qui est le premier marché en termes de taille dans le monde, hein, le marché unique européen. Et donc, il faut mieux être installé dans le marché unique. Et c'est ce qu'est le cas, évidemment, quand on est installé en France. Mmh. Et puis, deuxièmement, parce que les conditions de développement des affaires en France sont bonnes parce qu'on est plus compétitif qu'il y a quelques années, sont bonnes parce qu'il y a une vraie stratégie industrielle, notamment sur les technologies de décarbonation, de verdissement de l'économie et de numérisation, de digitalisation de l'économie. Et le tout parce que aussi en France, on a des talents. On a la capacité d'avoir des femmes et des hommes qui sont aujourd'hui demandés par les entreprises.
Alors, chaque année, lors de ce grand raout, d'habitude, il y a des annonces importantes d'investissement. Là, ça sera peut-être reporté un petit peu parce que le grand raout, si les conditions sanitaires s'améliorent, devrait quand même avoir lieu en avril-mai. Là, c'était une sorte de point d'étape pour présenter notamment le point de relance que je disais tout à l'heure. Est-ce que malgré tout ce matin, il y a eu des annonces, des entreprises qui disent « Allez, bah, nous, on y va, il fallait qu'on investisse ». Et on y va et on investit en France.
Non, mais effectivement, on a modifié le programme de Choose France, qui est d'habitude physique à Versailles, qui aura lieu cet été à Versailles. La date sera sûrement autour de fin juin, et on l'espère. Vous avez raison de le dire, si les conditions sanitaires le permettent. Mais on a voulu, avec le président, avec Bruno Le Maire, organiser quand même un séminaire numérique, un webinaire plus court. Et on a vraiment parlé, échangé, le président a échangé avec les chefs d'entreprise pour voir quelle est la stratégie économique et industrielle.
On n'a
pas,
comme
on le fait d'habitude, recensé tous les investissements qui sont en cours. Il y en a qui ont été annoncés. Je pense à Refresco, à la Luquenois qui est de 110 millions d'euros, qui vient d'être annoncé très récemment. Il y a le projet qui est le projet Ineos à Ambar, vous savez, qui permet de sauver 1300 emplois.
Dans l'ancienne usine de Smart à Ambar.
Et puis, il y a toute une série d'autres.
Je crois que Merck, dans la pharmacie.
Merck a annoncé un investissement dans le laboratoire de recherche en matière de santé. Et d'autres investissements seront annoncés dans les semaines et les mois qui viennent. Donc, il reste une bonne dynamique d'investissement malgré la crise. Le volume global est en baisse, mais beaucoup moins que dans d'autres pays, à commencer par la Grande-Bretagne ou l'Allemagne.
Et on va continuer à parler de cette dynamique d'investissement malgré la crise. Franck Riester, ministre délégué chargé du commerce extérieur et de l'attractivité, vous restez avec nous.
Europe 1. Et il est 13h18.
À suivre, c'est une licorne américaine née à Palo Alto. Elle est implantée depuis 2 ans à Sophia Antipolis.
Oui, elle s'appelle Symphony et son fondateur sera avec nous depuis Hong Kong. Et il va nous dire pourquoi lui, il a choisi la France.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
On parle donc d'attractivité de la France, on l'a compris depuis le début de cette émission. Bien sûr que c'est dur dans plein de secteurs, mais on s'en sort peut-être moins mal que les autres. C'est ce que nous dit depuis le début de cette émission Franck Riester, le ministre chargé du commerce extérieur et de l'attractivité. Il arrive tout juste de l'Elysée, où s'est tenue ce matin une grande rencontre par visio avec 87 chefs d'entreprise pour être très précis. Je vous rappelle notamment que Merck a annoncé ce matin qu'il allait renforcer son activité en France avec un investissement d'une quarantaine de millions d'euros.
Et choisir la France, ce n'est jamais anodin. Nos ingénieurs font partie des meilleurs au monde et cela, ça a été une des raisons de son installation ici en France, à Sophia Antipolis, pour la licorne américaine Symphony. Bonjour David Gurlet.
Bonsoir, bonjour.
Oui, il est quelle heure chez vous? Parce que vous êtes en direct de Hong Kong.
En effet, il est 20h20.
Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. C'est ce qui explique ce léger décalage que vous pouvez percevoir, chers auditeurs. Donc vous êtes le fondateur, David Gurlet, de Symphony. Symphony, ça existe depuis 2014. Quand on parle de licorne américaine, ça signifie que votre entreprise est valorisée à plus de 1 milliard de dollars. Symphony, c'est une plateforme de collaboration sécurisée, dédiée au marché financier. 400 salariés à travers le monde, 130 chez nous, en France. Quand vous avez décidé, David Gurlet, il y a 2 ans, de venir vous installer à Sophia Antipolis, vous aviez étudié 19 pays. Pourquoi avoir choisi la France ?
Alors, c'était une nécessité d'abord pour nous de délocaliser une partie de notre recherche et développement en dehors des États-Unis. D'abord pour des raisons de talent. L'administration américaine a empêché l'attribution des visas H1B qui nous permettaient de recruter pas mal d'ingénieurs à l'étranger parce qu'on avait vraiment du mal à le trouver localement. Deuxièmement, on avait des gros problèmes de rétention. Il y avait quand même beaucoup de compétition pour ce talent limité. Alors, nous avons décidé d'une manière stratégique de trouver un autre endroit où nous allions développer notre centre de recherche et développement.
Alors justement, quand on a préparé cette interview avec Elisabeth, il y a un mot que vous utilisez qui est revenu. Vous dites ici, la loyauté est plus importante. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est dans une entreprise, on part moins juste pour quelques euros de plus de salaire ?
Alors, c'est vraiment le cas, en effet, Emmanuel, parce que je pense que pour les Français, pour les ingénieurs français que nous avons le plaisir d'employer, ils ont quand même une perspective à très long terme pour leur entreprise. Ils ont envie d'y investir, ils ont envie de rester, ils ont envie de grandir. Et donc, cet investissement est mutuel. Et donc, on arrive à les fidéliser et servir aussi leurs besoins individuels en termes de développement et aussi de progrès qu'ils font dans leur métier. Et
David Gurley, pourtant, on connaît tous notre bureaucratie qui est un peu compliquée. On est un pays administratif. C'est pourtant facile de développer son activité ici. Quels sont vos avantages ?
Alors, je vais devoir reconnaître qu'en effet, les tâches administratives sont assez élevées en France. Par contre, le gouvernement a fait quand même pas mal de choses. D'abord, vous avez dans Choose France et avec le BPI, etc., beaucoup d'aides à des sociétés comme nous pour mieux connaître la France et comment est-ce qu'on peut se développer en France. Donc, on vous tient vraiment la main. Et ensuite, il y a quand même le tapis rouge qui est déroulé par le gouvernement afin qu'on puisse étudier vraiment le marché et de bien choisir notre localisation. Puis vient toute l'infrastructure qui était déjà mise en place, qui nous permet d'accélérer les choses, surtout en termes de crédit impôt recherche. Pour vous donner juste un chiffre, le crédit impôt recherche est un outil extrêmement important en termes de coût de salaire. Ça réduit d'environ 30% le coût total d'un employé. Et donc, ça nous permet du coup de recruter plus de gens. Aujourd'hui, nous avons 130 individus en France. On va passer à 200 parce qu'on peut recruter plus d'individus. Donc, du coup, on crée de l'emploi et ça nous permet évidemment de revitaliser l'économie.
Donc là, on vient d'entendre un point extrêmement important. Vous allez recruter 70 personnes sur cette année 2021. Donc, du côté de Sophia Antipolis, on est donc juste à côté de Nice. Notre invité, notre grand témoin, c'est Franck Riester, le ministre en charge du commerce extérieur et de l'attractivité. Vous l'avez entendu, le gouvernement a fait plein de choses, mais c'est encore trop administratif. Il faut toujours plus simplifier.
Oui, bien sûr, il faut faciliter la vie des entreprises. C'est ce qu'on a fait d'ailleurs depuis 2017 avec deux lois, notamment la loi Pacte.
Mais là, on entend que c'est
la loi
ASAP.
Oui, il y a encore des choses à faire, il y a des choses à améliorer, bien évidemment. Après, on a la chance aussi en France d'avoir, grâce à l'État et grâce à la protection sociale, des éléments qui contribuent aussi à l'attractivité du pays. Et ça passe par aussi un certain nombre de présences administratives. Mais c'est vrai qu'il faut aller encore plus loin. C'est ce qui est fait dans un certain nombre de sites industriels, ce qu'on appelle clé en main, où on facilite un peu par avance les différentes démarches pour l'installation des entreprises en France. Il y a eu 78 sites dans un premier temps et aujourd'hui, on en a plus de 100. Et on veut faire la même chose sur la logistique. Et puis, on travaille bien en équipe aussi. Ça, il y a eu une réorganisation depuis 2 ans, à la fois pour l'exportation, qu'on appelle la Team France Export, et aussi à l'invest, c'est-à-dire à l'attractivité, pour justement, quand il y a un investisseur, lui faciliter les démarches. Ouais. Et ça, en lien avec les régions qui sont chefs de file en la matière. Et en ce qui concerne Sophia Antipolis, c'est la région sud qui est pilote, en lien avec le territoire. On voit bien que c'est main dans la main, État, région et les différents acteurs qui sont favorables à l'attractivité permettent, notamment Business France, l'opérateur public, permet de faciliter l'installation de ces entreprises qui trouvent en France des bonnes solutions à leurs problèmes d'installation.
David Gurley, je rappelle que vous êtes le fondateur et le PDG de Symphony. Vous êtes en direct sur Europe 1, vous êtes à Hong Kong. Si c'était à refaire, vous le referiez ? Vous feriez exactement la même chose si on prend en compte la crise qui est actuelle ?
Oui, et j'aurais aimé le faire un peu plus tôt. Ça m'aurait permis d'avancer, on va dire, sur le recrutement et donc du coup de pouvoir grandir plus rapidement. Je veux juste revenir en fait sur la crise. Clairement, il y a des sociétés qui en souffrent, mais il y a des sociétés qui en bénéficient. Oui. Et nous faisons partie, on va dire, de ceux qui ont de la chance. Et pour nous, on voit notre investissement à l'échelle de 5 à 10 ans. Donc, lorsqu'on décide d'investir cette année autant d'argent pour pouvoir recruter 70 ingénieurs supplémentaires, c'est pas pour s'arrêter à là. Donc, c'est pour aller encore continuer au-delà de ça. Et donc pourquoi ça, on a tant d'énergie pour le faire? C'est parce qu'on croit dans la pérennité des réformes que le gouvernement a entrepris. Donc, ce qui est vraiment très important, je veux passer le message ici au ministre, c'est qu'on continue cet effort, que ce n'est pas fini, et qu'il faut continuer à raffiner la compétitivité de la France, et surtout dans la durée, pour pas que ça s'arrête dans 5 ans, pour qu'on se dise tout d'un coup les choses deviennent trop chères et on doit partir ailleurs.
Je crois que vous vouliez ajouter quelque
chose.
Oui,
d'abord j'ai rencontré les équipes de Symphonie à Sophie Antipolis, que j'y étais il y a 10 jours, et c'est vrai qu'il y a une belle dynamique territoriale là-bas, et Symphonie apporte beaucoup.
Mais vous avez entendu le message, surtout,
et
faut continuer.
Bien évidemment, et c'est le message qu'a fait passer d'ailleurs le président de la République tout à l'heure à ces grands chefs d'entreprise du monde entier qui sont intéressés, soit qui ont déjà investi, soit qui veulent investir en France, c'est qu'on ne veut pas revenir en arrière sur toutes réformes. On veut au contraire les amplifier. C'est le cas dans le plan de relance, France Relance, où on amplifie cette transformation du pays pour rendre le pays plus compétitif et plus attractif. Et quand même, je voudrais qu'on partage ça avec vos auditeurs. Rappelez-vous, il y a quelques années, où on nous disait « Oh là là, les talents français, ils s'exportent, ils vont au Canada, ils vont en Australie, ils vont en Californie. » Et bien là, c'est une entreprise de la tech, une start-up qui est successful, qui a du vrai succès et qui vient en France parce qu'elle trouve les talents en France.
Il n'en reste pas moins que souvent, on se fait quand même acheter nos talents et notamment nos belles pépites. Mais on va y revenir
Pas toujours, et la preuve que non.
Merci en tout cas, David Gurlet, fondateur et PDG de Symphonie. Merci d'avoir été en direct sur Europe 1 depuis Hong Kong.
Europe 1.
Et Franck Riester, vous restez avec nous, vous êtes notre grand témoin jusqu'à 14h.
Il est 13h29, eux aussi sont installés en France depuis plus de 60 ans. Et si je vous dis Nutella au Kinder Bueno, Emmanuel.
Je mange et on dit à tout de suite pour Ferrero.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
Et oui, elle bouge notre France peut-être avant un troisième confinement, mais pour le moment, elle bouge encore. Notre invité du jour, Franck Riester, qui est en charge de l'attractivité, ministre délégué, en charge de toutes ces questions. Vous l'avez esquissé tout à l'heure avec le Brexit. On est loin quand même du raz-de-marée qu'on nous avait annoncé à un moment de toutes ces entreprises qui auraient franchi la Manche pour arriver en France. On est aux alentours de 3000 postes que Paris aurait récupérés, quelques succursales bancaires principalement qui se sont installées ou réinstallées. Est-ce que vous êtes déçu?
Non, il y a des milliards d'euros d'investis et ça va durer dans le temps. Ça va durer dans le temps par rapport à ce que effectivement je disais tout à l'heure. Pour une entreprise qui veut accéder au marché européen, au marché unique européen, c'est mieux d'être installé en Europe et notamment en France. Et donc, il y a un moment donné où, lorsque les questions vont se poser de savoir si on investit en Grande-Bretagne ou dans l'Europe,
donc plus que le marché unique, ce que vous espérez,
les entreprises investiront dans ce marché unique. Exactement. Et notamment dans les services financiers, parce que dans les services financiers, le mouvement ne fait que commencer, étant donné qu'il n'y a pas prévu dans l'accord de relations futures la dimension services financiers. Et donc, il y a forte chance que pour beaucoup d'entreprises qui voudront atteindre le marché unique européen dans ces secteurs-là, ils devront avoir une filiale en Europe. Et particulièrement, il y a deux places qui sont bien identifiées, Francfort et Paris. Et Paris a l'avantage d'avoir cette attractivité globale, cette qualité de vie, cette protection sociale qui est reconnue par tous.
Est-ce que vous pouvez assurer aux entreprises, notamment aux entreprises étrangères qui veulent venir, que les impôts ne vont pas augmenter pour elles ? Pour financer toutes ces dépenses?
Oui, on est très clair là-dessus. On va pas revenir sur la baisse de la fiscalité sur le capital, vous savez, la suppression de l'impôt sur la fortune sur les valeurs mobilières. On va pas revenir sur cette flat tax de 30% des revenus du capital. On va pas revenir sur la trajectoire qui va nous emmener à 25% sur l'impôt sur la société, alors que nous étions à 33% en 2017. Ces 25%, ça sera en 2022, quelle que soit la taille de l'entreprise. On va parvenir sur cette baisse des impôts de production, 10 milliards d'euros en 2021, 10 milliards en 2022, qui sont prévus dans le plan de relance. Et on va pas revenir sur cet assouplissement du marché de travail qu'on a voulu et qui a été réalisé. Et on va même l'amplifier, puisque vous savez qu'il y a le travail qui est en cours sur l'assurance chômage, notamment. Et donc oui, tant que nous sommes en responsabilité, nous garderons ce cap, parce que nous pensons que c'est très important. Et nous pensons aussi que dans les mois qui viennent, cet élément-là, de la qualité, de l'attractivité du pays, sera un élément du débat politique. Est-ce que oui ou non, on doit poursuivre l'effort de transformation du pays au service de son attractivité, de sa compétitivité, ou est-ce qu'on fait un grand mouvement en arrière, avec tous les risques économiques que ça voudra dire ?
Bien sûr. Alors, par ailleurs, vous disiez tout à l'heure que Merck va investir plus nettement en France. Il y a un gros coup aussi avec Huawei qui va installer dans les mois à venir une usine en France. C'est sa toute première usine hors de Chine. Comment on les a convaincus alors qu'on ne veut pas travailler avec eux ?
Non, mais on ne dit pas qu'on ne veut pas travailler avec eux.
Un peu quand même. On a demandé à nos opérateurs de ne pas travailler avec.
Non, on dit que sur des éléments stratégiques, notamment dans les zones denses ou dans les zones où il y a justement des entreprises stratégiques, on ne veut pas que ça ne soit pas des éléments européens. Vous savez, dans notre politique aujourd'hui, il y a à la fois la politique d'attractivité, d'amélioration de la compétitivité. On veut accueillir des investissements étrangers, mais en même temps, on veut être plus souverain, moins naïf sur un certain nombre de secteurs ou de fleurons industriels.
Donc on veut travailler avec Huawei.
Mais on veut
travailler à nos opérateurs.
On ne pointe du doigt aucune entreprise en particulier, ni aucun pays en particulier. On dit juste, nous, Européens, sur des secteurs stratégiques, sur des technologies stratégiques, on veut garder la main. On veut garder la main parce qu'il en va de notre sécurité, il en va de notre protection de données industrielles, de données privées. Et peu importe si c'est chinois ou d'un autre pays. Il se trouve qu'aujourd'hui, sur la 5G, c'est les Chinois qui sont l'autre pays qui a cette technologie au niveau de la 5G. Vous savez qu'en Europe, il y a Nokia et Ericsson. Bon, on préfère travailler lorsque les zones sont denses et lorsqu'il y a des secteurs stratégiques en jeu avec des éléments européens.
C'est pour toutes ces raisons qu'on dit non à Couche-Tard pour acheter Carrefour ?
Oui, ça fait partie de ces raisons. C'est-à-dire que depuis maintenant plusieurs années, on a pris en main notre souveraineté. On a dit il faut qu'on arrête d'être naïf, il faut qu'on arrête de subir des décisions qui ont ensuite des impacts sur nos filières industrielles, sur notre souveraineté. Et donc a été votée des dispositions tant au niveau français qu'européen pour protéger un certain nombre de nos entreprises d'investissements qui pourraient compromettre notre indépendance ou notre souveraineté. Et c'est vrai dans les secteurs de pointe, la 5G, les technologies de défense, les télécoms, mais aussi aujourd'hui, ça a été élargi à des secteurs sensibles en matière d'alimentation, d'autonomie stratégique en matière d'alimentation et notamment la distribution alimentaire.
Mais est-ce que vous ne pensez pas que ça va avoir un impact ? C'est au moment où on dit à tout le monde « venez chez nous » et nous, on dit à ces entreprises « il n'est pas question d'acheter nos fleurons. Venez investir, mais pas question d'acheter français. »
Si, si. Venir chez nous, ce n'est pas forcément racheter nos entreprises. C'est aussi et surtout venir investir dans des nouvelles structures, dans des nouvelles usines, dans des nouveaux services. Ce n'est pas simplement venir acheter nos entreprises. En ce qui concerne nos entreprises et nos secteurs d'activité, oui, on va continuer d'affirmer que la France et l'Europe veulent plus souverains. On veut que ces pays-là, que les pays européens assument une politique de défense de leurs intérêts, de l'intérêt de leurs entreprises, de l'intérêt de leurs salariés. Regardez, quand même, on est à un moment où on a une crise sanitaire, où ces filières d'approvisionnement alimentaire de notre pays ont été absolument cruciaux et nous ont permis d'alimenter notre population malgré la crise.
Il n'y a jamais
les caissières
aucun problème
des supermarchés ont fait partie de ces héros qu'on a applaudi tous les soirs à 20h. Et donc, franchement, à ce moment-là, que le fleuron, un des fleurons de la distribution qu'est Carrefour, passe dans les mains étrangères, à ce moment-là de la crise, c'est le premier investisseur privé français, et c'est la première entreprise en termes d'emploi français, et c'est aussi un secteur reconnu comme stratégique. Tout ça a été su avant l'opération entre l'investisseur canadien et Carrefour. Donc, il y a un moment donné, on va continuer avec une stratégie économique qui vise à davantage de compétitivité pour notre entreprise.
Et d'investissement chez nous.
Et des investissements chez nous, mais en protégeant nos secteurs stratégiques et nos entreprises dont on est fiers.
Vous parlez de la crise sanitaire, justement, la campagne de vaccination a démarré au ralenti chez nous. Est-ce que là aussi, ça peut freiner des investissements étrangers ? Est-ce que ça peut être pris en compte ?
Non, écoutez, le rythme de vaccination est aujourd'hui très bon et on est dans le trend des autres pays européens. Il n'y a pas de raison que ça soit pénalisant pour la France. Mais bien évidemment, la question de la vaccination au sens large, c'est une question sensible. On sait bien que la reprise de nos vies Et la reprise économique ne sera possible que quand il y aura un niveau de vaccination très important dans tous les pays avec lesquels nous travaillons.
Alors, autre exemple, Franck Riester, d'une belle entreprise qui est venue, qui s'est installée chez nous. Elle est italienne, elle est installée sur notre territoire en Normandie depuis plus de 60 ans, près de Rouen. 11,4 milliards d'euros de chiffre d'affaires dans le monde, 1,3 milliard en France, et c'est le groupe Ferrero.
Eh ben oui, qui croyait que le Nutella était made in France ? Dora Nana nous raconte l'histoire de Ferrero.
Europe 1, la France bouge, la saga.
On connaît tous les produits Ferrero, à commencer par les Rocher ou le Nutella. Ce qu'on sait moins, c'est que Ferrero a une longue histoire avec la France. Ils sont présents chez nous depuis plus de 60 ans, et ça commence quand la famille Ferrero, originaire du Piémont, rachète une ancienne usine textile dans la vallée de l'Ostrebeurt, près de Rouen. On est à la toute fin des années 50, dans une région où le secteur textile, longtemps pourvoyeur d'emplois, commence à décliner. Jean-Baptiste Santoul, PDG de Ferrero France.
Et il y avait donc des usines avec beaucoup de salariés qui étaient une main d'œuvre très qualifiée. En parallèle de ça, l'endroit était géographiquement extraordinaire, pas très loin du Havre pour l'approvisionnement en matières premières exotiques, et puis également pas très loin du bassin laitier, la Normandie, pas très loin du bassin sucrier, la Normandie, la Picardie. Donc vous voyez, on y était, et c'est comme ça que l'aventure Ferrero a démarré en France.
Et ils vont rapidement partir à la conquête du marché français avec deux produits phares.
Le premier produit, c'était Mon Chéri, qui est très fort en France, toujours depuis lors. Et puis ensuite, deux, trois ans après, une pâte à tartiner qui s'appelait la tartinoise, qui était finalement l'équivalent de l'ancêtre du Nutella. Donc une crème à tartiner pour le goûter des enfants, inventée par le fondateur de l'entreprise, Monsieur Pietro Ferrero, en 1946.
Une pâte à tartiner fabriquée dans l'usine de Villers-et-Cal, qui va devenir le fer de lance de la marque.
C'est d'abord la plus grande usine du monde de Nutella. C'est 26% de la production mondiale. C'est entre 5 et 600 000 pots par an qui sont sortis de cette usine. Une usine qui, bien sûr, sert le marché français, mais aussi le marché espagnol, le marché belge, le marché anglais. On produit 20% du Kinder Bueno en France. C'est colossal.
Aujourd'hui, près de 2,5 millions de barres de Kinder Bueno sortent de l'usine, des produits au goût toujours identique et fabriqués avec une majorité de matières premières françaises ou locales.
70% des fournisseurs de Ferrero en France sont français, 25% sont normands, ce qui est énorme. 56% des ingrédients utilisés dans notre usine en Normandie proviennent de France. C'est 100% du sucre, c'est 2/3 du lait, par exemple. Quand on parle des emballages, c'est également les fameux pots de Nutella. On achète chaque année des millions de pots en verre.
Ferrero, c'est 1400 personnes en France, dont 1000 sur les 4 sites normands. En 10 ans, leur chiffre d'affaires a doublé, 1,4 milliard en 2019. En 6 ans, ils ont investi chez nous plus de 135 millions d'euros et ont annoncé fin 2020 un investissement de 42 millions. Un bel exemple d'attractivité de nos territoires.
Et c'était la saga du jour, racontée par Dora Nana.
Et Franck Riester, notre témoin du jour, ministre chargé du commerce extérieur et de l'attractivité. Vous restez avec nous encore jusqu'à 14h parce que là, maintenant, vous allez porter une casquette, non pas de ministre, mais de coach. Vous allez écouter le projet d'une entrepreneur et lui poser quelques questions.
Europe 1, 13h43.
Direction, les trophées Europe 1, la France bouge, une idée, un projet et un pitch dévoilé en direct.
Oui, aujourd'hui, c'est PharmaQuiz, une appli pour tester ses connaissances en matière de santé.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
Allez, c'est parti pour les trophées Europe 1. La France bouge, on est toujours avec notre grand témoin du jour, Franck Riester, le ministre chargé du commerce extérieur et de l'attractivité.
Bonjour Nora Marachi.
Bonjour.
Vous avez 35 ans, vous êtes pharmacienne de formation, vous avez fondé PharmaQuiz, une application pour tester nos connaissances en matière de santé. C'est une appli qui coûte 2,29 €. À quoi sert-elle ? À qui vous vous adressez ? On va écouter votre pitch. Vous avez une minute, c'est parti.
Bien sûr, bonjour à tous. Merci beaucoup, j'espère que vous allez bien. Alors l'application PharmaQuiz est divisée en trois parties. La première partie permet de vous amuser en testant vos connaissances à travers des quiz de santé de différents niveaux. À travers la seconde partie, eh bien, vous pouvez poser vos questions sur les différents sujets de santé qui vous préoccupent à un professionnel de santé indépendant. Vous recevrez ainsi une réponse de qualité, compréhensible et surtout personnalisée par rapport à votre question. Enfin, la dernière partie de l'application vous permet d'accéder à l'ensemble de la collection de livres, e-books et formations que j'ai créés pour vous informer, mais surtout vous sensibiliser par rapport aux maladies les plus courantes, telles que l'hypertension artérielle ou le diabète de type 2, qui sont des maladies qui peuvent être évitées. Tout cela pour vous informer et surtout vous sensibiliser par rapport à ces sujets et surtout faire en sorte que vous compreniez vos traitements, parce que je suis convaincue que comprendre sa maladie et ses traitements, c'est faire le premier pas.
Voilà, j'aurais dû vous arrêter, donc il faut que vous arrêtiez. Ça y est, on a dépassé la minute, mais il fallait finir la phrase. Et c'était très bien comme ça, bravo
Noura. C'était très bien, et puis en un an, vous avez déjà eu 8000 téléchargements, donc c'est qu'il y a une demande. Alors, Noura, je vous présente Nathalie Carré. Bonjour Nathalie.
Bonjour Elisabeth, bonjour Noura, bonjour Emmanuel. Bonjour.
Nathalie Carré, experte en charge de l'entrepreneuriat à la CCI. Elle a analysé votre projet et elle a deux, trois choses à vous dire. Les forces et les faiblesses de PharmaQuiz, Nathalie.
Oui, déjà les forces. Alors sur votre chaîne YouTube, les vidéos sont vraiment simples, très claires, didactiques et en accès libre.
Oui, parce qu'il y a une chaîne YouTube aussi, c'est vrai.
Il y a une chaîne YouTube en accès libre qui est très bien faite. Les sujets sont variés et répondent vraiment aux questions, aux principales questions en tout cas, que se posent les Français régulièrement. Et puis l'application qui permet de se tester et se poser des questions à des professionnels, ce qui évite de prendre des informations n'importe où. Point amélioré, il manque un lien en fait entre la chaîne YouTube et l'appli. Sur la chaîne YouTube, on a des contenus vidéo gratuits. Quand on télécharge l'appli, il faut tout de suite laisser ses coordonnées bancaires, même si on peut résilier dans les 14 jours. Il y a toujours un risque d'oublier, donc ça freine les utilisateurs. Alors qu'un site internet ferait le lien, ça permettrait de valoriser vos vidéos, proposer une démo de votre appli, rassurer sur les informations que vous donnez, sur les sources que vous utilisez, vous présenter les professionnels de santé auxquels vous faites référence, expliquer en combien de temps ils répondent et surtout vous positionner face aux mastodontes que sont Doctissimo et Passeport Santé.
Oui, parce que là, c'est très intéressant ce que dit Nathalie Carré, parce que même vous, là, vous avez peu insisté sur le fait que vous êtes pharmacienne, que vous avez travaillé un bon bout de temps en officine, que vous avez passé votre externat à l'hôpital Georges Pompidou et que ça vient de votre idée personnelle, parce que vous vous êtes rendu compte que vos propres patients n'y connaissaient pas grand-chose et avaient plein de questions où il était facile de les rassurer. Donc, par rapport à ce que dit Nathalie, est-ce que vous allez insister plus là-dessus ?
Oui, tout à fait. Alors là, comme on m'avait dit qu'il fallait que je présente l'application en une minute, j'ai vraiment essayé de faire très, très...
Oui, mais rien que le fait de dire « je suis pharmacienne », déjà, vous nous rassurez.
Oui, en fait, comme vous l'aviez dit, je pense
d'accord.
Que ça allait faire redondant dans les informations. Mais bien évidemment, en fait, ce projet, il vient vraiment de mon expérience professionnelle. Je me suis aperçue qu'il y avait un réel manque par rapport à l'information sur les maladies, les médicaments. Et notamment, lorsque j'étais en officine, moi, j'aimais vraiment expliquer au patient qu'est-ce qu'il allait prendre, à quoi allait servir son médicament et quels pourraient être à peu près les effets secondaires, les interactions. Et j'avais remarqué qu'il y avait un vrai engouement par rapport à ce type d'informations.
Franck Riester, qu'est-ce que ça vous inspire PharmaQuiz quand vous écoutez comme ça le pitch ?
Écoutez, d'abord, ça me confirme dans l'idée de dire que vraiment les Français ont une volonté de créer des entreprises. On n'a jamais autant créé d'entreprises, même en 2020, malgré la crise. Mmh. Et là encore, on a un bel exemple de quelqu'un qui a un parcours professionnel réussi et qui a envie de créer sa propre boîte, d'innover de partager cette création avec d'autres. Et deuxièmement, sur le secteur de la santé, il y a une grande demande, c'est vrai, aujourd'hui. On le voit bien, du fait de la crise sanitaire, il y a cette sensibilité.
On a besoin d'informations.
Il y a cette sensibilité toute particulière en ce moment. Donc, c'est plutôt le bon moment, effectivement, dans ce type d'innovation. Et dire qu'on a la chance, en France, d'avoir tout un dispositif d'accompagnement des entreprises, avec les chambres de commerce et d'industrie, avec les différents acteurs économiques, notamment BPI France, qui permet d'accompagner ces entreprises dans leur levée de fonds et dans leur, finalement, dans la capacité qu'elles pourront avoir à grossir et à trouver le bon modèle économique. Donc bon courage et bravo.
Et bravo, super. Et vous cochez toutes les cases. Donc on vous souhaite bonne chance, Noura Marachi, fondatrice de l'application PharmaQuiz.
Merci
à vous.
Merci infiniment.
Merci beaucoup à vous aussi, à Nathalie Carré. On vous retrouve demain si vous voulez vous aussi candidater. Une adresse, 20-lafrancebouge@europe1.fr. Et vous pourrez comme ça faire partie peut-être de nos candidats ou de nos candidates en route pour les trophées Europe 1 La France Bouge.
Et Franck Riester, ministre chargé du commerce extérieur et de l'attractivité, suite et fin de notre émission.
Europe 1, 13h51.
Dans un instant, demain au travail, nos sociétés, notre société change, nos entreprises aussi.
Oui, là-bas, ils travaillent 4 jours, ils sont payés 5 jours. Cette entreprise s'appelle Love Radius. Comment c'est possible ? On vous dit tout dans un instant.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil.
Allez, c'est déjà la dernière partie de votre émission et nous sommes toujours avec Franck Riester, le ministre en charge du commerce extérieur et de l'attractivité.
Et chaque jour dans La France bouge, nous passons un coup de fil à un patron, une patronne d'une entreprise qui nous raconte comment cette personne s'adapte à la crise afin d'améliorer le bien-être de ses salariés. Comme vous, Olivier Salle, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le cofondateur de Love Radius. Ça existe depuis 15 ans. C'est une entreprise qui fait des porte-bébés, des écharpes de portage. Vous êtes basé à Toulon et à Paris. 16 salariés dans votre entreprise. Et alors vous, vous êtes convaincu des bienfaits de la semaine de 4 jours. Sauf que chez vous, elle est payée 5. C'est arrivé comment ?
C'est arrivé parce que il y a 4 AD, il y avait des ponts de mai qui tombaient systématiquement un vendredi et un lundi. Et donc, j'ai fait le tour des équipes après en disant « alors, ce n'est pas trop pénible ». Et puis, tout le monde m'a dit « non, pas du tout ». Qu'est-ce qui s'était passé ? Tout simplement, chacun s'était organisé avec son poste pour venir un peu plus tôt à certains moments, partir un peu plus tard. Et tout naturellement, compresser son temps de travail, augmenter sa concentration et pouvoir donner le résultat de 4 jours, pas de 5 jours, sous 4 jours. Donc, j'avais relu en même temps un livre et une interview, surtout, de fondateur de Basecamp, qui lui fait ça aussi. Je l'avais déjà lu, je m'étais dit, c'est pas trop pour moi, etc. Et puis là, je me suis dit, bah, en fait, c'est ce qui vient de se passer. On va essayer. On a essayé pendant un mois, et puis ça a fonctionné.
Et ça a marché.
Donc, on a essayé la première année.
Alors, c'est pas toute l'année, hein. C'est de mai à août que vous avez mis en place cette semaine de 4 jours, avec ce point extrêmement important que vous avez décidé de maintenir la rémunération de vos collaborateurs.
Ah, c'est tout le principe, oui. C'est-à-dire qu'on a le même salaire. On travaille finalement quasiment pareil dans le résultat. Et il y a juste.
Quasiment pareil ou peut-être même un peu plus ? Non, parce qu'on concentre du coup.
C'est plus concentré, donc la densité est différente. Donc le rapport au temps est du coup, qui est en France, l'une des façons majeures de doser le travail. On parle de temps de travail constamment, alors qu'en fait, c'est le résultat du travail qui compte, on est tous d'accord. Donc là, finalement, on vire ce qui ne sert à rien, qui est le temps, en exagérant un peu, on garde le résultat et le salaire, bien sûr. Et du coup, bah, les gens sont encore plus au cœur de leur travail parce qu'ils gagnent de la journée en plus.
Ouais, et voilà. Ça doit être encore plus pratique en ce moment, en télétravail. Ils peuvent encore plus organiser leur temps. Franck Riester, quand vous entendez ça, une semaine de 4 jours payée 5 jours.
De mai à août pour tout le monde.
De mai à août
pour
tout le monde.
C'est ça que vous nous annoncez là maintenant.
Non, mais c'est très révélateur de ce qu'on essaye de faire. C'est de mettre de la souplesse dans le système. Il ne faut pas que ça soit une organisation unique du travail pour tout le monde de la même façon. Il faut bien sûr des limites, des garanties.
Dans la databilité.
Mais ensuite, laisser le plus possible les négociations sociales, professionnelles, se faire dans l'entreprise, au plus près du terrain, et laisser les entreprises, entre les directions et les salariés, trouver la meilleure organisation qui permette de faire de la qualité de travail et en même temps faciliter la qualité de vie. Et ça dépend bien sûr de la période de l'année, ça a été dit, de la taille de l'entreprise, du secteur. Bah, laissons un peu les entreprises s'organiser. C'était tout l'objectif des ordonnances Pénicaud, vous savez, qui était ministre du Travail dans les gouvernements d'Édouard Philippe, à la demande du président de la République, de donner dans notre législation les moyens aux entreprises, au niveau des entreprises, en lien avec les syndicats et les salariés de ces entreprises, de trouver la meilleure organisation possible.
La meilleure organisation possible, c'est ce que vous faites, Olivier Salle, cofondateur de Love Radius.
Merci Franck Riester d'être venu avec nous dans La France Bouge, nous montrer justement comment la France reste malgré tout un pays attractif. Vous êtes bien évidemment le ministre en charge du commerce extérieur et de l'attractivité.
À demain Emmanuel, d'ailleurs, demain mardi, nous parlerons de quoi ?
Eh bien là, dans une maison qui s'exporte parce qu'elle fait la majorité de ses ventes en Asie, c'est une maison d'exception, c'est Chaumet, on sera dans l'ultra-luxe demain.
Alors à demain, dans un instant, le flash suivi de Christophe Ondelat.